Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. César Yao.
Bonjour à tous, les titres de ce mardi 7h. Le grand rassemblement annuel des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes se tient du 6 au 17 mars 2023 à New York aux États-Unis. Cette session offre un moment unique pour forger un avenir numérique positif et c'est dans cette optique ONU Femmes Côte d'Ivoire en collaboration avec l'ambassade d'Israël a organisé hier lundi à Abidjan Cocody un panel change. La ville de San Pedro avec ses nombreuses entreprises industrielles sont des atouts économiques. Cependant, ces entreprises sont susceptibles de produire des nuisances à l'environnement et le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a effectué une visite au terrain dans des entreprises pour s'assurer du respect des normes environnementales. Dans l'actualité internationale, le gouvernement de transition du Mali a officiellement annoncé le 10 mars dernier que le scrutin prévu le dimanche 19 mars aurait lieu à une date ultérieure qui n'a pas encore été fixée, cela afin de régler certaines dispositions techniques liées notamment à l'installation de la toute nouvelle autorité indépendante de gestion des élections. Carlos Okwande sera avec nous pour la revue des titres des journaux ivoiriens. Puis en fin de journal, Junior Cardin recevra comme invité de la rédaction Dr Michel Yoboué, membre du groupe de recherche de plaidoyer sur les industries extractives. Ils parleront de la mission des organes de contrôle administratif de l'inspection générale de l'État. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. La 67e session de la Commission de la condition de la femme, qui est un grand rassemblement annuel des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, se tient du 6 au 17 mars 2023 à New York aux États-Unis. Cette session offre un moment unique pour forger un avenir numérique positif et c'est dans cette optique que l'ONU Femmes Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'ambassade d'Israël, a organisé hier lundi à ici à Abidjan Cocody un panel d'échange autour de la thématique suivante: l'innovation, le changement technologique et de l'éducation à l'ère numérique pour atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. On en parle avec Jean-Claude Mabéard.
Des inégalités entre hommes et femmes en matière numérique sont importantes, a fait remarquer la représentante résidente de ONU Femmes Côte d'Ivoire, d'où l'organisation de ce panel. Antonia Ngabala.
L'accent que nous avons voulu mettre ici, c'est former les jeunes filles, sensibiliser les jeunes filles quant à l'importance des nouvelles technologies. Comme vous savez, les jeunes femmes sont très peu nombreuses dans ce domaine qui est à dominance masculine. Et ce que nous avons voulu renforcer, c'est l'importance pour elles de s'engager dans ces filières de sciences, technologies, innovation, mathématiques.
Les filles ont donc besoin de modèles aujourd'hui dans le secteur du numérique pour parvenir à l'égalité des sexes et à leur autonomisation, a indiqué la conseillère technique de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Dr Binaté Fofana Namizata.
Encourager nos filles à travers des modèles qui sont des femmes leaders. Quand vous prenez professeur Guidi Wanja, qui est la première femme mathématique de Côte d'Ivoire, présenter son parcours devant des jeunes filles, je pense que c'est un moyen de motivation.
Au terme de ce panel, Kwame Grace Sarah, élève au collège Saint-François II de Yopougon, dit avoir tiré profit de ces échanges.
Je retiens qu'aujourd'hui, ils nous proposent des solutions pour que le monde de la technologie soit plus ouvert aux femmes.
Dans le secteur du digital, Israël offre des opportunités nouvelles aux femmes et aux filles pour leur autonomisation, a révélé Roni Yedidia, son ambassadeur en Côte d'Ivoire.
Parlons à présent de la lutte contre la traite des êtres humains. Sur les 49 trafiquants interpellés en 2022, 48 ont été condamnés. C'est ce qu'a révélé Dr Kobena Adou Kwame, le secrétaire technique du Comité national de lutte contre la traite des personnes. C'était au cours de l'atelier régional de perfectionnement des journalistes sur la traite des êtres humains qui s'est tenu récemment à Abidjan. Nous l'écoutons.
Au 2022, il y a eu 49 trafiquants qui ont été interpellés. Et sur les 49, il y a eu 48 qui ont été condamnés. Et vous avez vu que sur les 49, il y a une personne qui a été relaxée parce que les faits n'ont pas pu être avérés. C'est vrai qu'il y a plus de trafiquants que ça, mais le souci, et je pense que ce souci est le même pour tous les pays, c'est que souvent les victimes ont peur. Elles ont tellement peur qu'elles n'arrivent pas à dénoncer ou bien à donner les informations pour que l'enquête puisse se poursuivre normalement. On vous trouve, vous êtes dans une situation de traite avérée, mais on dit qui vous a mis dans cette situation. C'est des victimes de peur de tout ce qu'il y a comme représailles, refusent même de donner l'information pour que l'enquête puisse se structurer. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc c'est quand il y a une possibilité de mener une enquête avec des informations, avec les actions que la police peut faire, qu'on aille à mettre à main sur les trafiquants. Nous avons pu dénombrer ou bien recenser 1234 victimes de traite des personnes en Côte d'Ivoire en 2022. On a essayé de faire la classification pour voir sur les 1234 quel type d'exploitation il y avait. Donc il y avait par exemple 419 cas d'exploitation sexuelle, 518 cas de travail forcé, 122 cas d'exploitation domestique. Et il y a eu aussi des cas de mendicité et des cas de mariage forcé.
Voilà, c'était Dr Kobenan Adokwame, il est le secrétaire technique du Comité national de lutte contre la traite des personnes. Dans le souci de mettre en exergue la paix entre les membres et présidentes des différentes associations féminines du mois et ses environs, l'Union des associations des femmes du Tonkpi a sensibilisé l'ensemble de cette entité sur la cohésion sociale et le vivre ensemble qui est gage du développement. C'était lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à Mans le 8 mars dernier dans l'enceinte de la préfecture de la dite ville. Compte rendu signé Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkpi.
Cette rencontre des femmes de toutes entités du Tonkpi a permis de faire le bilan de leurs initiatives déjà engagées et des acquis obtenus au fil des années. Une aubaine pour la présidente de la Fondation CAID de mettre en avant l'identification des défis qui leur appartient pour parvenir à une véritable cohésion entre elles. Edwige Dieti.
La femme est la cheville ouvrière du développement parce qu'elle constitue le socle de la cellule familiale, parce qu'elle se situe au cœur de l'éducation de nos enfants. C'est ici que l'intégration de la femme au tissu socio-économique se pose avec le plus d'acuité. Je vous invite, chères femmes de Mans, de prendre toute notre place dans le développement de notre région, de changer qualitativement les choses de notre région.
Un changement qui obéit à cette exhortation de la présidente de l'Union des associations des femmes de Mans, Dosso Noël.
À vous, braves femmes, du Tonkpi, soyons des médiatrices de paix pour une région du Tonkpi apaisée lors des élections à venir. Gage de notre union retrouvée des femmes de Mans.
Écho favorable, traduit ici par Dame Nouan Anne-Marie.
Ce message est bienvenu pour nous les femmes, si tout ça nous permet de nous mettre ensemble encore, d'augmenter notre lien de fraternité. On ferait tout aussi pour que nous les femmes on puisse s'entendre dans nos différentes associations. Je lui ai dit merci pour le message qu'elle vient de dire.
Notons que le Tonkpi reste tout de même un vaste chantier de développement. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Saint-Pédroville portuaire avec ses nombreuses entreprises industrielles sont des atouts économiques. Cependant, ces entreprises sont susceptibles de produire des nuisances à l'environnement. Ainsi donc, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a effectué une visite au terrain dans des entreprises pour s'assurer du respect des normes environnementales. Le point de cette visite avec Benson Kofi, notre correspondant dans le Bassa-Sandra.
Des visites effectuées dans des cimenteries et scieries pour toucher du doigt les réalités du terrain. Cette visite vise surtout à sensibiliser au respect des normes environnementales selon le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Jean-Luc Assis.
L'objectif donc de cette visite, c'est de s'assurer effectivement que toutes les prescriptions qui sont contenues dans les études d'impact environnemental sont bien respectées. Et voir un peu les conditions dans lesquelles le travail se fait, les conditions dans lesquelles les employés travaillent dans ces usines. Et nous sommes aussi en train de préparer la mise en œuvre effective donc, du code de l'environnement à travers donc, les décrets d'application que nous allons prendre, qui prend en compte toute la dimension sociale. Par rapport à ça, nous sommes venus sur le terrain pour pouvoir préparer véritablement la mise en œuvre donc, de ce code de l'environnement. L'objectif, c'est de faire en sorte que toutes les structures qui sont installées sur le territoire ivoirien pollue moins.
Issam Anna est le directeur d'une société de sillage et moulure. Après la visite du ministre, se dit galvanisé pour un environnement industriel aux normes internationales.
Aujourd'hui, avec la visite de Monsieur le ministre, ça nous donne encore plus d'encouragement de suivre ces recommandations. Et on espère que, au fur et à mesure, on arrive au niveau maximum pour la sécurité et l'environnement sain dans nos sociétés.
Durant deux jours, les établissements industriels de San Pedro ont été sensibilisés aux normes environnementales. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Dialogue social dans le secteur de la santé, on en parle. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngoudemba, a procédé récemment à Abidjan au lancement des activités du comité sectoriel du dialogue social de son département ministériel sur les attentes des syndicats du secteur de la santé sur la mise en place de ce comité du dialogue social. Écoutons Boko Kwao, il est le porte-parole de l'accord de santé qui est la coordination des syndicats du secteur de la santé.
C'est un organe de veille et de prévention donc de tout conflit, permettre donc l'apaisement social dans tous les départements, dont le département santé qui a connu beaucoup de soubresauts cette dernière décennie. Et donc privilégier le dialogue pour traiter de toutes les questions préoccupant donc le personnel de santé.
Alors justement, en tant que syndicat, comment appréciez-vous la mise en place de cette structure?
C'est bienvenu que ça commence maintenant parce que nous avons donc que nous voudrions donc voir traiter et prise en compte par donc notre ministère et le gouvernement. Au niveau de la santé, nous avons le gros dossier de la mise en application de la réforme hospitalière dans laquelle donc nous avons inscrit l'essentiel de nos attentes au niveau des mesures de motivation pécuniaire, au niveau des mesures donc sociales de prise en charge du personnel de santé, au niveau de la formation du personnel de santé, mais aussi la gestion donc de la carrière des professionnels de santé, notamment donc l'organisation des concours professionnels. Tout ça en fait partie donc de nos préoccupations. Nous avons les dossiers donc sur le statut ambigu des personnels contractuels.
Voilà Boko Kwao, le porte-parole de l'accord de santé. La coordination des syndicats du secteur de la santé répondait à Jean-Claude Comé. Dans l'actualité internationale, au Mali voisin, le report du référendum constitutionnel est-il le prélude à un allongement de la transition dans ce pays? Le gouvernement de transition a officiellement annoncé le 10 mars dernier que le scrutin prévu le dimanche 19 mars aura lieu à une date ultérieure qui n'a pas encore été fixée, cela afin de régler certaines dispositions techniques liées, notamment à l'installation de la toute nouvelle autorité indépendante de gestion des élections. Certains se disent rassurés par cette décision, d'autres s'inquiètent des conséquences de ce report sur la suite de la transition et notamment sur son terme. Le gouvernement malien n'a pas encore annoncé la nouvelle date pour ce référendum, mais a clairement affirmé que l'échéance butoir négociée avec la CEDEAO pour le retour à l'ordre constitutionnel restait une priorité absolue, car le chef de l'État tient fermement au respect de cette date. À présent, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Carlos Kouandé. Bonjour Carlos.
Bonjour César, bonjour à tous. Plusieurs sujets dominent les titres de vos journaux ce mardi 14 mars. Défense et sécurité. 27 entreprises présentent leurs équipements aux armées ivoiriennes, nous dit le Patriote. Le ministre de la Défense, Teme Biraïma Ouattara, de dire en titre chez Le Matin, nous allons acquérir du matériel militaire de dernière génération pour notre armée et fixe ses conditions aux industries françaises de l'armement, comme écrit l'Inter. Pour l'avenir, la France et les États-Unis appuient les forces armées ivoiriennes. Attentat de Grand Bassam. Le miroir d'Abidjan rappelle, il y a 7 ans, des terroristes attaquaient la Côte d'Ivoire. L'ancêtre célébré hier dans le recueillement, c'est ce que écrit le Rassemblement. Séisme en Turquie, la Côte d'Ivoire fait don de 618 millions de francs CFA au peuple turc, nous apprennent Fraternité Matin, Notre Voix et l'Expression. Pour Soir Info, la Côte d'Ivoire apporte une aide importante à la Turquie. Vie des partis politiques. Un conclave à la rue Le Pic hier. Bakango met les nouveaux adhérents en mission, nous informe l'Essor ivoirien. Les nouveaux adhérents prêts à mouiller le maillot, selon le Patriote. Les nouveaux adhérents RHDP gonflés à bloc, écrit le Rassemblement. C'est pourquoi ils prennent des engagements forts. Comme nous le précise Le Matin, voici le nouveau point de chute de nouveaux arrivants, croient savoir le mandat. Municipal à Abobo, un cadre veut le fauteuil de Kandia Camara. Titre Le Sursaut. Régional dans l'Odjiboa, un cadre du RHDP récuse Amédée Kouakou, mentionne Le Temps. Selon l'Inter et Le Bélier intrépide, c'est l'ex-député Lobognon Begré Samuel qui est opposé à ce choix. Du côté du PDCI-RDA, le nouveau réveil parle de guerre de positionnement avec ce titre. Camorassiens et méhicistes se battent autour de Bédier. PDCI-RDA, voici les trois règles à observer pour la victoire aux élections municipales et régionales, indique Dernière Heure Monde. En ce qui concerne le PPACI, Amnesty International exige la libération immédiate des militants emprisonnés, titre Le Temps. Pour ce même journal, le PPACI honore la mémoire de ses militants. Et puis, deux ans après la mort de l'ancien Premier ministre, Ahmed Bakayoko, des questions toujours sans réponse. Notre Génération Nouvelle, en titre de l'expression, on peut lire « Le souvenir d'Ambak est inaltérable ». Pour le rassemblement, voici les grandes leçons de la vie de Ambak. Sur ce, à vos journaux et bonne lecture.
Voilà, c'était la revue des titres des journaux ivoiriens signé Karl Sokwande. À présent, l'invité de la rédaction, l'invité des Junior Cardinal, Dr Michel Yoboué. Il est membre du groupe de recherche et de plaidoyer sur les industries extractives. Récemment, l'inspection générale d'État et les autres organes de contrôle administratif ont annoncé avoir effectué 708 missions de contrôle en 2021. Quelle est la mission de ces organes de contrôle? D'ailleurs, ces contrôles ont-ils un impact réel sur la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire? Ces questions sont entre autres les préoccupations auxquelles répond Dr Michel Yoboué dans cet entretien.
Docteur Michel Yoboué, bonjour.
Bonjour.
Et docteur, l'inspection générale d'État, IGE, vient de remettre son rapport au gouvernement. On voudrait savoir, l'IGE, quelle est sa mission?
En fait, c'est un instrument permettant au chef de l'État et à son gouvernement d'exercer leur légitime pouvoir de contrôle sur la gestion et la bonne marche des affaires publiques. Et donc, c'est un instrument, en fait, de bonne gouvernance au niveau de l'État. Donc, si on veut se référer, disons, au décret qui met en place l'IGE, l'IGE, donc, a une mission d'inspection et d'investigation. L'IGE aussi a des missions d'audit et de prévention des risques. L'IGE a une mission d'évaluation des politiques et des organes publics. L'IGE est aussi chargé des études, de la programmation et des statistiques sur tout ce qui est contrôle effectué.
Quel est donc le rapport entre la mission de l'IGE et puis la mission de l'inspection générale au niveau de certains ministères?
En fait, il y a l'IGE, mais il y a aussi d'autres instruments de l'État qui sont les IGM, les inspections générales des ministères. Il faut dire que l'IGR, c'est l'autorité hiérarchique de toutes les autres structures de contrôle et d'inspection. Donc l'IGE est au-dessus de l'inspection générale des ministères. Mais tous les ministères n'ont pas une inspection générale. On a, par exemple, le ministère de l'économie et des finances qui a l'inspection générale des services fiscaux, l'inspection générale du trésor. On a le ministère de la Défense qui compte l'inspection générale des armées et de la gendarmerie nationale. On a le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui dispose de l'inspection générale des services de l'administration des territoires et de l'inspection générale de la police, par exemple. Donc,
et à côté de ces inspections générales, il y a encore le pouvoir judiciaire et législatif. Comment tous ces organes arrivent à travailler ensemble?
L'IGR, comme je l'ai dit, est un instrument entre les mains du chef de l'État et de son gouvernement. Mais il y a le fait que l'IGR joue un rôle qui permet de collecter des données en termes d'inspection ou en termes de contrôle. Mais tout est une question de mission des différents départements de l'IGR. En fait, l'IGE va donc, dans cette mission, faire un rapport de ses activités qui le remet, mais ce n'est pas seulement l'IGE, il y a aussi les IGM qui remettent aussi leur rapport. Mais l'IGE, en fait, n'a pas un rôle judiciaire. L'IGE a un rôle d'inspection et de contrôle, et ces travaux sont remis maintenant dans le cadre d'une collaboration avec les pouvoirs judiciaires, aux autorités judiciaires qui vont continuer la procédure judiciaire.
Et puis, pour revenir donc à l'IGE, quelles sont les voies de saisine?
L'IGE, en fait, dépend directement du président de la République. Donc, l'IGE est saisie principalement par le président de la République, mais elle peut également être saisie par le Premier ministre, les membres du gouvernement, les institutions, les services publics et parapublics, les particuliers, les associations de la société civile. Et l'IGE peut aussi s'auto-saisir. Et dans ce cas, l'inspection générale d'État informe le président de la République de la mission qui en découle. Donc voilà un peu les voies telles que décrites par le décret du 1er août 2018 qui essaie de déterminer les attributions de l'IGE. Voilà.
Et à l'occasion de la remise du rapport de l'IGE à la présidence, donc au vice-président, il y a quelques jours, il a été indiqué que 700 missions de contrôle avaient été effectuées par l'IGE en 2021. Docteur Michel Yuboué, quel est l'impact réel de ces contrôles sur la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire?
Au nombre des missions qui ont été effectuées, bon, selon l'actualité, c'est environ 225 missions de contrôle, parce qu'il y a des missions de contrôle et il y a des missions de vérification comptable qui ont été réalisées. Et au dit des journalistes qui ont couvert l'événement, c'est environ 483 missions de vérification comptable qui ont été réalisées par l'IGE. Et donc, quel est l'impact en termes de bonne gouvernance? C'est ça votre question, n'est-ce pas?
Voilà.
Donc, en termes de bonne gouvernance, cela signifie déjà qu'il y a une action de contrôle en ce qui concerne, disons, la gestion des affaires publiques en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour qu'on puisse parler de son impact, il va falloir voir quels sont les résultats qui ressortent de ces missions. Les résultats en termes d'utilisation, ça peut être des ressources mises à disposition dans le cadre des affaires publiques, mais ça peut être aussi des résultats sur le bon fonctionnement des différentes structures qui font l'objet, bien sûr, des missions des IGE. Et donc, je pense que c'est déjà un instrument de reddition des comptes, mais il y a une difficulté qui demeure au niveau de la mission des IGE, c'est que tout ce qui est fait au sein de la mission des IGE reste encore confidentiel. Donc cela reste vraiment dans les discrétions du chef de l'État et du gouvernement.
Est-ce qu'aux yeux donc du contribuable, cela ne plombe pas un peu la mission de ces inspections?
Mais ils ont un rôle administratif, donc ça reste dans le cadre administratif. Maintenant, s'il y a des cas, par exemple, de malversation ou des situations dans lesquelles il doit y avoir une diffusion, nous, si nous devions regarder avec les yeux de la société civile, on pourrait dire qu'il serait intéressant que l'opinion nationale soit informée des résultats ou qu'il y ait, par exemple, un point de presse et non pas une simple remise, mais qu'il y ait un exposé des résultats, un exposé public des résultats permettant de pouvoir demander des comptes à ceux qui gèrent, disons, les ressources de l'État.
Docteur Michel Yuboué, merci beaucoup.
Ok, je vous en prie. C'est moi qui vous remercie.
Voilà, l'invité de Junior Carnet était Dr Michel Yuboué, il est membre du groupe de recherche et de plaidoyer sur les industries extractives. Et c'est la fin de cette édition, le rappel des principaux titres à la une de l'actualité. Le grand rassemblement annuel des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes se tient du 6 au 17 mars 2023 à New York aux États-Unis. Cette session offre un moment unique pour forger un avenir numérique positif et c'est dans cette optique ONU Femmes Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'ambassade d'Israël, a organisé hier lundi à Abidjan Cocody un panel d'échange. La ville de San Pedro, avec ses nombreuses entreprises industrielles, sont des atouts économiques. Cependant, ces entreprises sont susceptibles de produire des nuisances à l'environnement. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a effectué une visite au terrain dans des entreprises pour s'assurer du respect des normes environnementales. Enfin, dans l'actualité internationale, le gouvernement de transition du Mali a officiellement annoncé le 10 mars dernier que le référendum prévu dimanche 19 mars aurait lieu à une date ultérieure qui n'a pas encore été fixée, et cela afin de régler certaines dispositions techniques liées notamment à l'installation de la toute nouvelle autorité indépendante de gestion des élections. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Vous retrouverez l'actualité sur Radio de la Paix à 8h.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.